Cette histoire prend place au Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est une histoire assez dingue puisqu'elle révèle l'existence d'une population de bonobos très très loin de la zone jusque-là connue par les scientifiques. En fait, c'est un Africain qui est juge à Kinshasa. Qui lui est persuadé que dans son village, il y a des bonobos. Petit problème du point de vue des scientifiques à qui il en fait part, ou des ONG, c'est que son village est à plusieurs centaines de kilomètres de la zone de répartition des bonobos. Donc, pour ces gens des ONG, pour les scientifiques, ces allégations ne sont pas plausibles, n'ont aucun sens, quoi. Sauf que, à force d'entêtement, il finit quand même par convaincre un gars un peu plus curieux que les autres de venir jeter un œil. Et il s'avère que oui, il y a vraiment des bonobos autour de son village. Donc, encore une fois, une nouvelle zone de répartition de l'espèce, très très loin de la zone connue à ce moment-là. Et aussi intéressant, ces bonobos subsistent autour de ces villages parce qu'il y a une légende, il y a un mythe, il y a un tabou qui fait qu'on ne peut pas chasser, on ne peut pas tuer ces bonobos qui sont tout simplement la réincarnation des ancêtres qui ont refusé l'esclavage parce qu'ils avaient des dettes auprès de quelqu'un et que, dans les temps reculés, si on n'était pas en mesure de pouvoir régler ces dettes, de pouvoir payer ces dettes, eh bien, on les payait en étant transformés en esclaves. Et donc, ces humains qui auraient refusé l'esclavage seraient partis dans la forêt et se seraient transformés en singes, en bonobos. Voilà ce qu'incarnent les bonobos d'aujourd'hui. Et ce qui explique qu'ils soient toujours là, dans des zones habitées, pas très loin des villages. Voilà, donc je vais raconter cette histoire. On remonte le fleuve Congo en pirogue jusqu'au village, reculé. Et là, c'est tout simplement, je pense, l'un des voyages les plus durs physiquement que j'ai jamais fait. Puisque pour suivre ces bonobos, donc, on se levait à 3h30 du matin. Là, il y avait, alors tout dépend d'où on les avait laissés la veille, mais en moyenne, on va dire qu'il y avait... Une heure et demie de marche pour arriver dans la zone, enfin pas dans la zone, pour arriver au pied de l'arbre où il s'était couché la veille, et il fallait arriver avant qu'il ne se réveille et qu'il ne reparte pour une nouvelle course à travers la forêt. Ah, cette forêt, c'est de la forêt secondaire, donc ça veut dire dense, touffue, impénétrable, vraiment pas facile à parcourir. Et bon, ça doit dépendre des saisons. Moi, au moment où j'y étais, ils passaient leur journée à se déplacer en quête de nourriture. Donc, mon sac fait 22, 23 kilos sans trépied. Et donc, on passe la journée à leur courir après, littéralement. Alors, parfois, on varie les plaisirs. Parfois, on peut ramper aussi dans la végétation. On peut être à quatre pattes. Enfin, bon. Et c'est vraiment la bataille. Et évidemment, les moments que tout le monde, quand je dis tout le monde, sont les guides qui sont là, qui suivent ces chimpanzés pour des données scientifiques. Moi-même et mon copain journaliste, Fabian von Poser, eux tous, ils attendent que les chimpanzés s'arrêtent pour manger quelque part, pour reprendre haleine. Sauf que quand ils s'arrêtent, je dirais que pour moi, c'est là que ça commence. C'est là que je sors le matériel le plus rapidement du sac et que je commence à faire des photos. Donc en fait, pour moi, ça ne s'arrête jamais. Et donc voilà, ça commence à... Alors on se lève à 3h30, à 4h on est parti. Et donc de 4h du matin au coucher du soleil à 18h, c'est non-stop, non-stop. C'est tellement intense que les guides qui sont là-bas, qui récoltent les données, travaillent 2 jours d'affilée. Et s'arrête 3 jours. Moi, j'ai fait 21 jours d'affilée.